Salut tout le monde, Tommy Godette au micro, bienvenue à ce nouvel épisode de Terrain Basique, votre podcast hebdomadaire 100% Magic, enregistré au Musée de l'Absurde à Montréal, au Québec. Comme un petit peu à l'habitude, je suis flanqué de mes deux collègues. Hein. Salut Andy à la console.
Coucou.
Comment ça se passe?
Ça se passe en esti.
Puis ton draft?
J'ai gagné une belle lurette sur un bout. Je pense qu'on va arrêter d'en parler.
Ah boy, on est rendu là!
Ben, je pense qu'on est dû pour en faire un autre.
Ça, je suis d'accord avec toi. On est tout le temps dû pour faire un autre draft. Content de t'avoir avec nous à Terrain Basique. Et je dis nous parce qu'il y a Jason Keys aussi.
Bonjour.
Comment ça se passe, toi?
Écoute, j'ai hâte au prochain draft.
Et voilà, c'est dit.
On va avoir du nouveau matériel à parler.
C'est bon, tout le temps comme ça. Sinon, ben, en background, vous entendez Crystalis, qui est un jeu de NES de 1987, si je me souviens bien. Ça vient de SNK, qui ont fait des jeux plutôt morbides, comme Guerrilla Wars et d'autres affaires comme ça. Une compagnie bizarre, qui est un petit peu disparue avec le temps, mais Crystalis, c'est un jeu assez unique et fantastique. Donc, voici la trame sonore pour vos oreilles. Ça s'écoute tellement bien avant de dormir ou autrement. Sinon, ben, on veut commencer cette semaine en parlant d'un moment intense qu'on aurait vécu dans une game. Un moment de bluff, un moment de combo qu'il fallait piger à ce moment-là, de cartes. Moi, j'ai pas fait beaucoup de tournois, donc je suis un petit peu plus maigre sur les histoires de légende, mais je vais en avoir une pour vous. On peut peut-être commencer par... OK, c'est moi qui commence. J'ai essayé mon deck de chien dernièrement. Et moi, j'ai une petite passion pour les chiens.
Ça, c'est les Type Hounds.
Ouais, c'est ça. Ouais, les Creature Type Hounds. Moi, j'appelle ça un deck de chiens. Et c'est un deck de Petland. Et c'est très chien comme dynamique, péter des landes. Et ça m'est arrivé souvent de jouer avec mon deck de chiens. Et à un moment donné dans la game, la personne dit « Ah, oh, Chris, c'est chien, ça. » Je fais « Ben oui, c'est chien, c'est mon deck de chiens. » Et toutes les créatures sont double strike et tout et tout. Et je peux les rendre souvent unblockable et je les équipe avec, je mets l'enchantement.
C'est un Ancient Creature 2-1 qui coûte 2 colorless, 1 rouge, que tu peux besto pour 4. Il donne +2/+2 à la créature et elle doit attaquer tous les tours, c'est ça?
Parle plus d'un enchantement qui vient de Urza. C'est 1 colorless, 2 rouge et quand la créature fait du dommage à un joueur, le joueur doit sacrifier un land. Oh. Donc là, je le mets sur mes chiens qui sont double strike et je les rends imbloquables, ce qui fait que je peux aller tuer 2 land dans le tour en attaquant
parce
avec
que double strike ça frappe 2 fois
et sinon j'ai les sinkholes, j'ai toutes sortes de spells pour faire sûr que je vais tuer des lands le plus vite possible. Et donc avec mon deck de chien, je pensais que c'était pour être surtout fort à 1 contre 1. Je jouais contre 3 personnes et j'ai réussi à toutes les menotter avec 2 chiens. Voilà, c'est
pour ceux qui se demandent, la liste va être en dessous de l'épisode. Je l'ai vu ce deck-là, il y a du potentiel.
Il y a du potentiel, certain. Et j'ai mis un Jumijawel Justin, l'équipement trop fort. Et comme ça a un look d'os, ben c'est comme l'os des chiens. Comme si c'était l'os des chiens.
L'équipement le plus mythique de l'histoire de Magic est réduit à un non-os pour des hounds à 2 têtes.
You bet, man, c'est ça qui arrive. Puis j'ai le Cerbère aussi, là.
Underworld Cerberus.
Ouais, c'est ça. 3 colorless, un noir, un rouge pour un monstre 6-6, ce qui fait que les gens peuvent plus jouer les affaires qu'il y a dans le graveyard. Ce qui fait que si je pète les lands, ils s'en vont au graveyard, ben là, ils reviendront pas en jeu si t'as un deck vert ou autrement. Voilà. C'était un moment de Magic qui m'a vraiment satisfait quand j'ai réussi à menotter 3 adversaires avec un deck que je pensais qu'il était pour être solide juste à 1 contre 1. Merci les chiens. Lâchez pas la leçon de courage. Toi, Andy?
Ouais, ça fait trop longtemps, fait que je pourrais pas, t'sais, à part si je parle du draft qu'on a eu il y a quelques années.
Parle-moi encore du draft.
Non, je parlais pas de ça. Mais ce que je me souviens dans le temps, par contre, c'est vieux, là. Ça se peut que j'aurai pas tous les mots, là, mais il me semble que dans ce temps-là, on avait du fun avec les Millstone. Puis les cannes, tu sais, comme...
Les premiers decks forts de Magic, c'était Millstone blanc-bleu, Counterspell, Soulstoop.
Puis t'avais la canne de Urza, je pense.
Oui.
Que quand tu la sacrifiais, tu reprenais tout ton graveyard, puis tu le mettais dans ton...
Feldenskain.
Feldenskain, merci. Fait que tu sais, dans ce temps-là, comme j'avais raconté dans ma première, je pense, la première épisode, où est-ce qu'on jouait des decks de 200 cartes? Ben, imaginez, on jouait des decks de 200 cartes avec des millstones et une personne skill. Fait qu'on reprenait notre graveyard et on la remettait sur notre deck. Fait que ça faisait des parties vraiment très, très épiques, mais je me rappelle pas précisément d'un move plus ou un autre.
Là, le gars qui chialait, ben, il chialait moins souvent vu que la game durait plus
toujours. C'était épique.
T'as manqué combien de cours de philo pour finir ta game? Dans le café
ben, mais c'était en soirée, fait que.
Ah, ok.
Mais j'en ai manqué. mais pour être bien franc, j'ai manqué beaucoup plus de cours de philo à jouer au trou de cul qu'à jouer à Magic.
Oh, pathétique.
La plus belle game de trou de cul qu'on a joué, on était 25 dans la cafétéria.
Il y avait
un président, un vice-président, un trou de cul, un vice-trou de cul, puis tout le reste. Ben, tu sais, il y avait comme plein de vice-trou de cul, fait que vice-trou de cul, juste qu'à une secrétaire. Il y avait une secrétaire qui gérait tout le beau monde.
Oh, je paye. Donc, c'est la dernière fois qu'on va parler de
trou de cul.
C'est pour ça que j'avais pas beaucoup d'amis au sujet.
Parce que tu jouais pas au trou de cul. Et voilà. Et on s'en va pour une anecdote de game avec notre cher Jason.
Moi, c'est au pre-release de Guild of Ravnica. Donc, je jouais un deck de bleu noir.
Dimir.
C'est un draft, le Bensil. Au pre-release. Donc, l'autre, mon adversaire joue aussi un Dimir. Là, ça devient intéressant parce qu'on a comme quasiment le même deck. Et il caste un Etrata de Silencer. C'est une carte qui a fait beaucoup de bruit dernièrement. Deux colorless, un bleu, un noir. C'est une créature, un 3-5. Elle peut pas être bloquée. C'est un vampire assassin. Puis, quand t'attaques avec, vu qu'elle peut pas être bloquée, dès que tu deals des dégâts à l'autre joueur, tu peux exiler une de ses créatures. Ensuite, tu mets Etrata dans ton deck, tu la remets dans ta library. Si tu la repiges plus tard, tu refais encore la même chose. Puis quand ça arrive la troisième fois, l'autre a perdu la game.
Ok, un coup qu'il y a trois monstres exilés par Etrata,
il a perdu la game.
Il a perdu la game.
Cette carte-là, Unlimited, fait pas peur. Sauf que dans cette game-là précise, il me restait trois vies. Fait que je pouvais pas la bloquer.
Ok.
Sauf que dans ma main, j'avais un Dead Weight. Là, vous allez voir, c'est funky. Là. Le Deadweight, c'est un Ancient Creature dans le noir qui coûte 1. Target Creature get -2/-2. Fait que là, je me dis, elle va quand même encore me faire 1. Ça va péter ma créature qui me reste. Puis le tour d'après, elle va me tuer. Moi, j'aurai plus rien. Ça va être la fin de la game. Puis j'ai juste mon Deadweight qui ne règle pas ma situation. Cependant, j'avais aussi dans ma main Convive. Sorcery. Gain control of target creature with power 2 or less.
I see what you did there.
Le gars était sûr de sa victoire. C'était la finale, ouais. C'était de mon dernier match. C'est qui c'est qui allait partir à la maison qui est paquet. Puis là c'est ça, il était tout fier de j'ai pogné Trata dans mon paquet, tu sais. Puis là je joue mon dead weight, puis là il comme ben c'est pas assez. Tu sais, puis j'ai dit non, un peu. Puis là je tape mes 4 laines. Là, j'y vole. Puis c'était vraiment drôle.
Sa face a fondu.
Écoute, on l'a pris tout. On riait aux éclats. On a pris le board en photo. Puis on l'a mis chacun sur.
Oh boy, yeah. OK.
C'était vraiment drôle. Bref, ça, c'est.
C'est une des magies de Magic.
Une des magies de Magic.
Excellent.
Après ça, j'aimerais ça pour le bénéfice de tous. Une autre légende urbaine dans l'histoire de Magic.
Oui, ben oui, si on parle d'un moment spécial de game. On a déjà parlé celle du Chaos Orb.
Qui est pas mal la plus populaire.
C'est la plus populaire.
C'est la plus populaire.
Mais parmi les pros, il y en a une qui vaut vraiment la peine. Il y a un gars qui s'appelle Mike Long. Mike Long est au Magic Hall of Fame. C'était un des premiers gros joueurs de
c'est,
Magic.
Ça, excuse-moi, là. Ouais. Le Magic Hall of Fame, c'est-tu dans la cave chez les parents de quelqu'un en banlieue?
Wizard gère un Wall of Fame.
Ben, ça peut être dans la cave chez les parents de quelqu'un.
À chaque année, les pros, il faut que tu aies fait un pro tour, puis tu peux voter un collègue qui doit être sur le Hall of Fame.
Okay,
à chaque année, je pense qu'il y en a un nouveau. Mike Long est très controversé parce qu'il s'est fait pogner à tricher.
Oh, fais pas ça.
Ça, c'est venu après. Le Pro Tour de Mirage en 1900.
Comment tu fais pour tricher à Magic? En plus, tu piges deux cartes quand t'es supposé en piger une.
Il y a beaucoup de tricheurs dans les pros, surtout au début parce qu'il y avait moins de contrôle. Parce que c'est des gens qui gagnent leur vie en jouant à Magic.
Ouais.
Tu sais, puis c'est ça qui fait la différence des fois.
Ils ont encore plus à perdre s'ils se font pogner à tricher.
Puis les premières années de Magic sont réputées pour leurs histoires de tricherie. J'en ai une ici, les borderline triche, mais écoutez bien ça. Mike Long au Pro Tour de 1997. Son deck était déjà connu. Le gars, il jouait un deck June. Ça, c'est le nom pour les rouges, noirs, verts. Donc, son deck contenait 4 Prosperity. Ça, c'est un sorcery bleu. X bleu. Target player, draw X card.
Ok, dans son deck noir, rouge, vert, il y avait
Excuse, c'est Grixis. C'est la même couleur que Nicole Bolas. Okay. Rouge, bleu, noir.
Ok, pardon. Voilà.
Non, il y avait 4 couleurs dans le fond, parce qu'il y avait du vert aussi. Parce que okay. L'autre carte qui jouait 4 fois, c'est Cadaverous Bloom, un enchantement de mirage, qui coûte 3 colorless, un noir, un vert. Choose a card in your hand, remove it from the game. Dans le fond, si tu prends une carte dans ta main, tu la remove de la game, puis tu peux rajouter dans ton mana pool. Dans le fond, tu crées 2 mana verts ou 2 mana noirs.
Ok, tu perds une carte pour 2 verts ou 2 noirs.
7 cartes, t'as 14 mana.
Ok.
Puis il jouait une seule copie de Drain Life. Sorcery, un colorless, un noir. Tu peux taper autant de land noir que tu veux pour faire un dégât à un joueur, puis tu gagnes la différence en vie.
Non, mais là, avec le pigeage de cartes comme ça, ça accélère assez vite.
Ben, c'est le combo. Fait que là, son deck, c'était vraiment simple. Il mettait un Cadaverous Bloom en jeu. Avec son Prosperity, il pigeait plein de cartes. Il jetait ses cartes. Pour créer plein de mana, son... pour faire un autre Prosperity. Puis là, à la fin, quand il avait assez de mana, il faisait un Drain Life Lethal de 20. Là, qu'est-ce qu'il a fait, notre Mike Long, qui est arrivé au tournoi Pro Tour de 97? Il pigeait pas de land.
OK.
Là, il s'est ramassé avec 8 cartes dans ses mains.
OK.
Il avait son Cadaverous Bloom, il manquait de land. Mais il avait réussi à faire son Cadaverous Bloom. Il a fait, avec le Cadaverous Bloom, il a exilé de sa main son seul Drain Life dans son deck. Il l'a montré à l'autre. Puis là, il a dit, j'exile ça, je crée 2 mana. Là, l'autre a fait comme « Ah ah! » Il n'y a plus de win condition. Sauf que l'autre, il a dit « Mais non, un joueur ne ferait pas ça. »
Ben ouais,
parce que je sais qu'il y a juste un Drain Life.
Ben, il en avait deux.
Non, mais tu sais, comme je l'ai vu, il jouait tout le temps un Drain Life, parce qu'avec Prosperity, c'est sûr qu'à un moment donné, tu prends ton Drain Life. Ouais, ouais. Il s'est dit « Non, si c'est une crosse, il y a d'autres Drain Life dans son deck. » Il était convaincu. Mike Long avait une seule Drain Life dans son deck.
OK.
Là, ce qui est arrivé après, c'est l'autre qui avait passé de mana, fait que là, il s'est dit c'est quand il a montré ça, là, il a concede. Il a dit on va passer à la game suivante. Parce qu'il y a d'autres Drain Life. Il y a présentement l'avantage sur Gatherer's Bloom.
Ok.
Fait que dans le fond, il a fait concede l'autre en montrant que. Genre, il a acheté sa seule carte qu'il pouvait gagner, mais l'autre s'est dit il y en a d'autres. La okay. game est finie. Mais en réalité, Mike Long a pris ce bluff-là parce qu'il savait que si l'autre mordait pas à l'hameçon puis qu'il concédait pas, c'était fini.
Ok.
Ouais.
Ben, ça, c'est correct. Ça, oh, c'est pas correct.
Non,
de
non,
faire
mais
ça.
C'est. Non, non, mais c'est pas ça que je dis, c'est légit, là.
Ok. Sacré Mike Long, hein.
Sacré Michel Mike Long. Puis la quote, c'est. Il a dit à l'autre. Tu sais, comme s'il y avait d'autres Drain Live dans son deck. Puis, do you want me to go through with it? On voulait dire, tu sais, comme. On peut-tu passer à la suivante? Parce que de toute façon, je vais éventuellement pogner un Drain Live.
Ouais.
Puis, moi, il y a une anecdote que j'aime bien, c'est que il paraît que quand t'écoutais les Pro Tour à l'époque, ils passaient. La majorité de la game était passée de les deux pros s'ostinaient avec le juge. Parce que le pro callait le juge. Tu sais, il y a tout un juge qui surveille ses games.
Ben oui.
Puis, il paraît que c'était très désagréable. Puis
c'était beaucoup, à cette époque-là aussi, le wording sur les cartes, c'était pas
ouais,
comme
c'était
de
pas
nos jours.
Super clair,
de nos jours, il y a deux ordinateurs qui peuvent jouer un contre l'autre. Fait que là. Tu sais, il y a une manière de résolver. Un bon arbitre, ça devrait être une machine, à rigueur. Et de nos jours, avec le Magic en ligne et tout, ça existe plus, mais dans le temps, c'était vraiment pas ça.
Puis il y a vraiment un souci d'économie. Ça a l'air nono, là, mais un souci d'économie de mots qui fait que, justement, le « does not untap », ou « does not tap », vigilance. Lifelink, tu sais, comme...
Et voilà, ben merci, c'était quand même une très belle anecdote, celle-ci. Ce qui va nous amener à notre carte de la semaine. Hey, cette semaine, moi, j'avais un deck de résurrection, de revival. Là. Tu sais, tu mets les monstres dans le graveyard et tu les ramènes en jeu. Moi, ça a été... Depuis que j'ai commencé, c'est une de mes dynamiques préférées, ça.
Ouais.
J'aime beaucoup ça. Et j'ai découvert un monstre, ça s'appelle Flayer of the Eightbound. Ça coûte 5 colorless, 1 rouge. Le monstre est 4-2.
Ça, c'est dans...
Undying, ça, je pense que c'est Innistrad.
Dark Ascension.
Et voilà. Donc, Undying, c'est que s'il meurt et qu'il n'y a pas de compteur +1/+1 dessus, tu le ramènes en jeu à la fin du bas, juste là. Et lui, c'est à toutes les fois que lui ou une autre de tes créatures arrive en jeu depuis le graveyard, la créature, ou lui, fait autant de dommages où je veux que son power. Ce qui fait que quand tu le ressuscites de ton graveyard, il revient en jeu et il fait 4 de dommages où tu veux. Si t'en ramènes 2 en même temps, ben tu trigger 2 fois chacun, parce que les deux appliquent à l'autre.
Ils ont le même nom.
Ouais. Et voilà, ça te fait J'ai réussi à faire l'autre fois, au quatrième tour, j'ai réussi à faire
ça se casse-tu avec
36 Unearth? De dommages. Non, lui, tu peux pas avec Unearth.
Ah, bah c'est...
Mais le truc, c'est plus avec des Victimize. Wow. Victimize, c'est deux colorless, un noir. Tu sacrifies une créature que t'as en jeu. Ça peut être lui que tu sacrifies.
Oui.
Parce qu'il est Undying, fait que là, il revient.
Oui.
Et tu ramènes Victimize, fait que tu, après avoir sacrifié ta créature, tu ramènes deux créatures de ton graveyard en jeu. Tapé. Oui. Mais tu t'en fous qu'il soit tapé si hey, tu fais le pouvoir
c'est
en
quand
dommage.
Même pas, hein?
C'est une carte qui a vraiment comme donné une deuxième vie à mon deck de démons du ressuscitage. Et c'est une dynamique aussi que je connaissais pas. Ben, que le monstre ait un bonus quand tu le ramènes en jeu depuis le graveyard, il ouais. y en ouais, a pas ça. Beaucoup des non. monstres qui ont ce bonus-là. Et moi, j'adore ça, ramener des monstres en jeu depuis le graveyard. Voilà, c'était ma carte de la semaine. Ce qui nous amène maintenant, on a décidé de parler aujourd'hui du set et même du contexte,
oui.
du plan de réalité qui a beaucoup mis Magic sur la map, qui a beaucoup influencé sur le jargon qu'on utilise en parlant. On parle de Ravnica cette semaine, Jason.
Oui. Ravnica, le set, le premier Ravnica est sorti en 2005,
oui,
le deuxième Ravnica en 2013, et là le set qui est sorti actuellement au mois d'octobre, Guilds of Ravnica. C'est le plus populaire à Magic, c'est un environnement de draft vraiment le fun. Le Ravnica est un plan complètement recouvert d'une ville.
Ouais, c'est une planète qui est une ville en même temps.
Ouais, c'est une ville, ça fait 10 000 ans qu'elle existe, c'est comme ça que ça s'est empilé l'un par-dessus l'autre.
Comme Trantor dans les fondations.
La cité...
Mais c'est très ça, c'est moi ouais. ça m'a fait
oh,
penser.
C'est vraiment, c'est basé là-dessus. Ouais. Là,
ou Coruscant dans Star Wars.
Ouais, Coruscant dans Star Wars qui est comme Trantor dans fondations.
Ouais, c'est tout est fier.
Ravnica, c'est... t'as 10 guilds qui sont représentés dans le fond par 10 combinaisons de couleurs. Qui se partage le pouvoir sur Ravnica, puis chaque guilde a une fonction dans la ville.
On peut peut-être les dire là, il y a Azorius,
c'est les bleus et les blancs, c'est tous ceux qui gèrent le système de loi, la bonne marche à suivre.
Nice. C'est les scribes.
C'est les scribes, c'est les juges, ouais. Dans le fond c'est les veilles à la bonne marche de la ville, tu sais, c'est l'ordre qui vient de la couleur okay. blanche, mais il y a aussi le savoir ancestral. Mm-hmm. Faut pas répéter les erreurs du passé, ça c'est le côté bleu, fait que ça fait beaucoup
piger les psychologues de l'histoire.
Ouais.
Après ça, il y a les 10 000, bleu-noir.
Juste terminer, Azorius okay. n'est pas présent dans le Guilds of Ravnica présentement, ils vont venir dans le set de cet hiver.
Ouais, Allegiance, souvent ils font ça dans tous les blocs. Là.
C'est ça,
fait que... Je pense que Guilds of Ravnica, c'est plus les 10 000.
C'est toujours, parce que tu peux pas trop en mettre en même temps, fait que c'est toujours 5 guilds par 7.
C'est ça.
Là, vous avez dit vraiment beaucoup de mots depuis le début de cette boîte-là.
Là, j'ai juste dit Azorius.
Non, attends.
C'est qu'il y a plusieurs sets. Là, on a Guilds of Ravnica.
Ben, ouais. T'as dit Ravnica, puis Guilds of Ravnica.
Il y a eu trois années où toutes les sets de Magic se passaient sur Ravnica.
OK, mais le nom, c'était quoi? Pas Ravnica. Le premier, c'est Ravnica.
Le premier, c'est Ravnica City of Guilds.
Ah, OK.
Avec le deuxième set qui est sorti tout de suite après, qui était Dissension. Okay. Puis le troisième qui était Guild Pack, c'est trois sets qui se passaient
Ça s'appelle un bloc.
Ravnica. En 2000, là, c'était le
set. Fait qu'ils veulent notre argent, c'est ça que t'es en train de dire.
Okay. En comptant des bonnes histoires, en faisant des fonds. Après ça, en 2013, vu ils avaient fait une grosse passe de cash.
Ça, c'était en 2013.
Okay. En 2013, ils ont dit, on va faire, le set s'appelait Return to Ravnica.
OK.
Le deuxième set s'appelait Gatecrash. Le troisième s'appelait Dragon Maze.
OK. Chacun de ces affaires-là, c'est 154. Genre,
ouais.
D'habitude, il y en a un qui est 250, puis après ça, les autres, c'est 150.
Comme là, Guilds of Ravnica, c'est 250, puis les autres qui s'en viennent, ça va être 150.
Lui, puis le prochain, vont être gros, parce que c'est les représentations des 10 guilds.
5
puis
5, OK.
5. Puis le troisième, là, j'en parlerai plus tard, là, mais Nicole Bolas se pointe sur Ravnica.
Ah non!
Le party commence.
Puis on n'a pas fait le ménage.
Fait que les Azorius, c'est eux qui gèrent les lois dans la ville.
Bleu-blanc.
Puis d'ailleurs... La loi suprême, ça s'appelle le Guild Pack. Il y a eu un set en 2006 qui s'appelait Guild Pack.
Ouais.
Ça, c'est vraiment... C'est eux qui ont organisé la ville, dans le fond. C'est comme les fondateurs. C'est eux qui ont convaincu les 9 autres guilds
de faire le Guild Pack. Là, on a 10 à faire, fait qu'on va accélérer. Ouais. Ensuite, c'est bleu-noir, c'est les 10 000.
Bleu-noir, c'est... Non, les 10 000, je vais les garder pour la fin. Après ça, ça prend... Pour appliquer ta loi, ça prend la force.
Ouais.
T'sais? Fait que ça, c'est Boros, les rouges et blancs. Les rouges et blancs, les Boros, ça, c'est les Judge Dredd de la ville. C'est comme l'armée.
C'est les Grunts.
C'est les Grunts, c'est genre la police. C'est eux
l'exécutif.
Qui... Ouais. C'est l'exécutif. Tu vas jouer des... Ils ont des gobelins qui sont comme conscrits, mais c'est surtout des soldats 1-1 2-2.
Deux 1 first strike en
standard. Ouais, c'est des decks rapides. Ça, c'est son Anguille of Ravnica. Donc, quand tu drafts, tu veux jouer, remonter un deck de Burrows, tu y vas large, fait que tu veux des créatures qui coûtent 1 ou 2 dans le blanc et le rouge. Ton but, c'est de fesser le plus rapidement possible.
Et voilà, Burrows. On a une deuxième défaite. Troisième.
Ces gens-là, faut qu'ils mangent. Puis oui, ça crée des déchets, une ville recouverte d'une ville. Fait qu'on a les Golgari, le vert et le noir. C'est eux qui débarrassent les déchets, puis qui paradoxalement aussi les recyclent, puis en fait la nourriture.
Ok.
C'est la
saproling, puis.
Fait que ils font le saproling, mais ils ont un dark side, c'est parce qu'ils sont noirs.
Ouais.
Ils sont aussi des pratiquants de nécromancie, puis ils ont beaucoup de zombies. Donc les Golgari vont toujours jouer dans le graveyard, dans Guild of Ravnica. Quand tu drafts du vert et du noir, dans le fond, quand ta créature elle meurt, ça te dérange pas parce qu'elle va, ça va dans le graveyard. Ouais. Ils ont la mécanique underground, la plupart des cartes dans le Golgari.
Quand ils rentrent en jeu,
c'est ton nombre
graveyard.
De créatures dans c'est le graveyard. Fait, dans le fond, c'est comme ça qu'ils recyclent leur mort.
Ouais. Tu veux grossir ta pile de mulch qui est en train de décomposer.
C'est un peu comme le underclass de Ravnica. Là,
c'est bright.
Ils vivent dans les égouts. Vous avez remarqué les basic swamps de Ravnica, c'est des tunnels d'égouts. Après ça, on a les Dimir.
Mais là, le premier fait pas partie de Guilds, mais les deux autres, Boros, sont dans Guilds, puis Dimir, pas Dimir,
Golgari. Après ça, t'as les Celestia, eux autres sont spéciales. Celestia, c'est le
pour plus tard.
Le blanc, ouais, les Dimir, c'est le dessert.
Okay.
Le blanc et le vert, ça, c'est les Celestia. Ça, c'est un peu comme un état dans l'état.
C'est avec ça que j'ai gagné.
C'est la
Suisse.
Celestia,
c'est le vert. Si le plan est recouvert d'une ville, où est la nature?
Ouais.
Celestia, c'est comme le seul arbre qui restait à Ravnica.
Dans le fond, c'est Park and Recreation.
Ouais, c'est exactement ça. Donc, t'avais le Vitu Dali, qui est un genre d'arbre mythique gigantesque qui contient l'esprit d'un élémental vert.
OK.
Qui a monté une espèce de religion que les porte-paroles, c'est des dryades.
OK.
Des créatures.
Des elfes.
Puis les elfes de Ravnica, c'est des elfes urbains, ils sont dans Celestia. Ouais. C'est un culte tourné vers la nature, parce qu'il faut qu'ils respectent les lois de Ravnica.
Ben oui.
Puis moi, j'aime beaucoup le storyline de Celestia, parce que c'est un genre de culte que ton individualité compte plus, parce que dans le fond, la nature, c'est la population de Ravnica. Puis c'est pour ça qu'ils ont la mécanique Convoke.
Beaucoup.
C'est-à-dire que chaque créature, tu peux les taper pour produire du mana.
Pour qu'il y ait plus de créatures, plus de nature.
Quand tu joues du Celestia, ça va être l'inverse. Quand tu drafts, que tu piges, tu vas faire l'inverse de Boros. C'est-à-dire Boros, tu vas vouloir jouer vite, puis tuer rapidement. Tandis que Celestia, tu vas te défendre. Fait que tu mets des bloqueurs au début.
Je reviens beaucoup parce que c'est le seul draft qu'on a fait de Guilds, mais c'était, mes games étaient longues.
C'est ça, mais faut que tu prends ton temps, jouer Celestia, faut que tu prends ton temps, parce que tu veux builder ton armée.
C'est ça.
Puis vers le tour 6, 7, 8, c'est là que tu fais ton all-in, tes créatures, ils ont maintenant Trample, puis
son lifelink.
Ouais, puis ils ont la mécanique vigilance. Fait que quand vous draftez Celestia, checkez les mécaniques combo.
Exact.
Puis les créatures qui ont vigilance peuvent attaquer, mais après ça, t'as plus pour vous donner.
Après,
les
Dimir. On va dans les Dimir.
Le Dimir, la dernière guilde de Guilds of Ravnica. Je vais faire Izzet. Izzet, c'est le rouge et le bleu. C'est un dragon. Dans le storyline, c'est le seul dragon de Ravnica.
Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé avant, mais chacune de ces guides-là ont un chef défini.
Oui, un chef défini.
Comme Azorius, c'est un sphinx. Le Celestia, c'est l'arbre que tu parlais.
Donc, c'est des dryades. C'est un ensemble de dryades qui représentent la voie de l'arbre. Bref, c'est des mythiques. C'est rare que vous allez les pogner dans le draft. Bravo si vous en pognez un. Les Izzet, c'est un dragon qui avait le savoir, parce qu'un dragon, ça vit longtemps. Ouais, c'est le personnage de Ravnica qui est le plus vieux, il y a genre 10 000 ans. Il est aussi vieux que la ville.
Okay.
Il y a la connaissance. Le bleu, c'est la connaissance, tu piges les cartes. Puis en même temps, rouge, ben, tu utilises le feu.
Il joue avec ses connaissances.
Fait que la guilde Izzet sur Ravnica, c'est tous ceux qui créent le tech. Dans le fond, les machines, les outils, c'est eux qui contrôlent les forges. Donc, t'as beaucoup des spells qui font du burn.
Qui te font piger des cartes aussi.
Qui te font piger des cartes, ça c'est la version bleue.
Ouais, c'est ça.
Donc, quand tu joues Izzet, tu vas avoir quelques créatures seulement que tu vas te garder, comme le Crackling Drake. C'est une créature flying, que son power, c'est le nombre de sorcery puis d'instants que t'as dans ton graveyard.
Okay.
Tu veux surtout piger des instants puis des sorcery. faut te faire piger des cartes. Tu veux créer un loop où tu piges en masse de cartes, puis tu bats ton ennemi à petit feu avec des spells de burn. Il y a la mécanique Jumpstart, qui est une référence.
Ouais, c'est bon.
Ouais, ouais,
Jumpstart,
c'est une manière d'utiliser tes lands dans fin de game.
Ouais, fait que tu sais, t'as une carte que tu sais pas quoi faire avec, puis t'as une carte qui a Jumpstart dans ton graveyard, tu discartes ta carte. Ton instant ou ton sorcery, tu peux le caster deux fois.
C'est ça.
Moi, je vous conseille de prendre, si vous la pognez, c'est, j'ai oublié son nom, mais ça coûte 3 colorless, un bleu. C'est un sorcery qui permet de piger 2 cartes, puis tu la jumpstart pour 2 autres cartes. Fait que dans le fond, t'as pigé 4 cartes. C'est très fort. Quand tu bâtis Izette, là.
Ouais, ouais, ouais.
Pour 8 mana, oui, mais dans le cours d'une game, c'est contrôle Izette. Tu vas faire beaucoup de counter spells, de burn. Fait que, tu sais, les choses autour de toi survivent pas longtemps.
Et voilà.
La dernière guilde, ma préférée, c'est les Dimir. Les Dimir, c'est les espions. C'est le bleu et le noir.
C'est les vampires de l'information.
Officiellement, Dimir, c'est l'information, tu l'as dit. Leur mission première dans la guilde,
c'est les médias.
C'est le, ouais, mais c'est le courrier. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup leurs cartes, c'est tout dans des messagers. Genre. C'est eux qui gèrent toute la circulation de courrier. Ça, c'est le côté bleu de Dimir. C'est le savoir, la connaissance. Mais ils ont un côté sombre, parce qu'ils sont noirs. C'est les espions, les assassins. Leur trip, là, dans toutes les histoires de Ravnica, ça a tout le temps été... C'est eux qui sont généralement derrière les complots. Moi, je trouve que c'est la couleur la plus forte.
Steve Bannon et Dimir.
Clairement. Le Trump est mono-rouge, mais Steve Bannon et Dimir.
Alex Jones, lui, est plus calme.
J'avais parlé dans les premiers épisodes, la carte Disinformation Campaign,
qui utilise
la mécanique de Surveil. Si vous voulez jouer Dimir en draft, gênez-vous pas. Chaque carte qui a Surveil dessus, vous voulez la prendre. Puis les cartes que vous voyez, each time you surveil, surveil, dans le fond, c'est t'espionne, tu ramasses l'information. Surveil, ce que ça fait, c'est que tu regardes le dessus de ta librairie, la carte. Puis, mettons, surveil 1, tu peux la mettre dans ton graveyard, ou tu la gardes sur le dessus de ta librairie. Vu que tu joues dans du noir, tu vas souvent pouvoir ramener des cartes de ton graveyard.
C'est comme un scry autrement.
Ouais.
Puis il y a même des dynamiques, genre de retour, genre tu sacrifies une carte, tu vas chercher 5 de telle carte.
Oui, tu sais, il y a un recyclage qui se fait un peu comme les Golgari, puis c'est le côté noir. Ça, c'est les 5 de Guild of Ravnica.
Et voilà, du premier set, là, on va voir dans
les ouais. Puis là, on va voir dans les prochains sets, et ce qui manque encore, c'est ton Rakdos, les rouges et noirs, l'entertainment, dans le fond, tout ce qui est divertissement sur Ravnica.
Oh, parle-en pas là, on en parlera dans le prochain.
Ouais, ouais, c'est bon point.
Je pense qu'on finit ça pour cette semaine. Merci beaucoup, Andy.
Un plaisir.
Merci beaucoup, Jason. On invite encore une fois tous les auditeurs à nous suivre sur Facebook ou ailleurs. Repartagez notre émission. Vous êtes le nerf de la guerre. On a un podcast québécois sur Magic. Si vous voulez participer ou nous proposer un sujet de conversation, si vous connaissez quelqu'un qui aime Magic, n'hésitez pas, là, hein, parlez-en sur Facebook.
Ou si vous voulez drafter avec nous.
Ben oui, drafter, venez drafter au musée.
Draftons.
Sinon, on est là la semaine prochaine pour une autre émission. C'était Crystalis aussi en background. Mon nom est Tommy, c'était Terrain Basique. On vous aime, salut!
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.